VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 6 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Le Cameroun, champion de la CAN 2017. Le football est en roi. Nous consacrerons une bonne partie de cette édition à la Coupe d'Afrique des Nations.
Dans le reste de l'actualité, les Congolais continuent de pleurer l'opposant historique Étienne Tshisekedi à Bruxelles, où il est décédé mercredi dernier, comme en République démocratique du Congo même.
À Bamako, troisième sommet extraordinaire aujourd'hui des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel.
Brahim Khalil, le chef du Front Polisario, a averti que toutes les options restaient ouvertes au Sahara occidental après le retour du Maroc au sein de l'Union africaine.
Et tout de suite, place au sport.
On commence ce monde aujourd'hui sans attendre par la belle victoire du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations hier soir. Nicolas Puneau pour en parler avec nous. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Les Lions indomptables ont rugi de bonheur hier sur la pelouse du Stade de l'Amitié à Libreville. Cinquième titre continental pour le Cameroun qui a battu 2-1 les Pharaons d'Égypte, pourtant favoris sur cette finale. Tout s'est joué en deuxième mi-temps, comme nous l'explique l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donogmaï.
La partie semblait pourtant mal engagée pour les Lions camerounais. Ils regagnent les vestiaires avec un but enregistré à la 21e minute et signé El Neni, le gardien de but camerounais Fabrice Ondoa.
Et ils nous ont pressionné très haut. À la deuxième minute, ils avaient déjà une occasion et un peu plus tard, ils ont mis le premier but. Et vraiment, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai ressenti de la fatigue au niveau de l'équipe aussi parce qu'on n'a pas eu de temps de repos, on n'a pas eu de temps de récupération. Mais je pense qu'avec la détermination, le courage et le cœur du lion que nous avons montré ce soir, c'est passé.
À la reprise, les Égyptiens qui étaient si vifs semblent maintenant léthargiques. Un fait que confirmera leur coach en conférence de presse. Les Camerounais saisissent cette opportunité pour égaliser par Nkolo d'une belle tête. Venu du banc de touche, Vincent Aboubakar gagne un duel avec la défense égyptienne, marque et donne le trophée au Lion. Dans les gradins, leurs fans reprennent en chœur l'Égypte dans la sauce, l'Égypte dans la sauce, une adaptation de la chanson à succès de leur compatriote Renis. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Battu en 1984 et en 2008 par l'Égypte, justement en finale de cette même CAN, le Cameroun tient donc sa revanche. Cette équipe composée de jeunes joueurs après le forfait de dernière minute de plusieurs cadres a donc su déjouer les pronostics, comme l'explique le président de la Fédération Camerounaise de football, Tombi Aroko Sidiki.
L'esprit lion est de retour et cet esprit doit régner, rester. Parce que même en étant hors des pronostics de tous les spécialistes, on l'a fait. Dieu merci. Le Cameroun est un pays de football. Ça voudrait dire qu'il y en a qui peuvent être indisponibles pour des questions de blessures, de suspension. Ce qui est important, c'est qu'on soit capable de trouver 23 autres gaillards susceptibles de représenter le Cameroun. Et c'est ça qui est important. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que hier, certains de nos compatriotes, pour des raisons diverses, n'ont pas pu répondre à l'appel. Moi, je ne leur jette pas le pauvre. Parce que je l'ai déjà dit, je suis le père de tous les footballeurs camerounais. Et donc, aucune sanction, aucune. Parce qu'il reste des Camerounais à part entière. Et il va falloir rediscuter avec eux, essayer d'évaluer leur motivation à revenir jouer pour le Cameroun. Parce que la porte reste ouverte, c'est des Camerounais à part entière qui n'ont pas perdu leur nationalité.
Le président de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki. Autre bonheur partagé hier, celui d'Ambroise Oyongo Bitolo, joueur camerounais.
On va bien préparer cette Coupe d'Afrique et voilà, on a une très bonne équipe et je pense qu'à cette période-là, on aura tous ces jeunes seront plus matures qu'aujourd'hui et je pense que ça fera du bon. Je prie que ça continue comme ça, sans qu'il y ait des éclats de voix ou de problèmes, mais avec l'état d'esprit qu'on a, je pense que tout le monde est humble et vous savez, l'humilité c'est une très grande force. On va continuer comme ça et voilà.
Le joueur camerounais Ambroise Oyongo Bitolo. Évidemment, les Camerounais étaient présents en masse dans les tribunes du Stade de l'Amitié. Ils ont aussi laissé éclater leur joie. Je vous propose d'en entendre quelques-uns.
On n'a même pas envie de parler. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé au stade de l'amitié de Libreville. Le Cameroun a mérité avant que Française 5e coupe de Coupe d'Afrique de la Nation. Je vous laisse. Vive le Cameroun!
Autre joie, mais cette fois à Yaoundé, la capitale camerounaise qui a explosé au coup de sifflet final. Comme l'a constaté le correspondant de VOA Afrique sur place, Emmanuel Junta.
Dès le coup de sifflet final de la bite, la liesse populaire a gagné tous les quartiers de la ville de Yaoundé, la capitale politique. Klaxons de véhicules, de motos, sifflets des fans des Lions, des scènes de joie se sont répandues dans toute la ville. Les jeunes gens ont même trouvé une idée originale pour faire plus de bruit, à savoir traîner sous le goudron les casseroles et couvercles de marmite. Dans les bars de Yaoundé, la bière coule à flot. L'ambiance est à la fête. La musique et la joie sont à l'honneur des Lions Indomptables qui, pour reprendre un refrain bien populaire au Cameroun, ont cuisiné tous leurs adversaires. Le temps passe, mais les rues grouillent toujours de monde. Le lieu-dit poste central, au centre-ville, devient un point de convergence des foules entières à la ferveur patriotique. Le refrain de l'hymne national du Cameroun est entonné avec hystérie. La circulation est paralysée sur certains carrefours, nécessitant un déploiement spécial des forces de l'ordre. Le quartier dit Briqueterie, où l'attaquant Vincent Aboubakar a beaucoup de fans, est transformé en boîte de nuit à ciel ouvert. Non loin du siège de la Fédération Camerounaise de football, des centaines de fans de Lions Indomptables célèbrent la victoire au rythme des chants et danses. Pour eux, de nouveaux héros ont vu le jour et l'heure est à la réconciliation entre les Lions et le peuple camerounais.
Enfin, nous avons retrouvé l'esprit lion, le fighter spirit, ce dont nous avons manqué depuis. Vraiment, bravo les gars.
Au péril de leur vie, des supporters juchés sur des capots et mal arrière des véhicules prennent la direction de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où les Lions Indomptables sont attendus. Yaoundé et plusieurs villes du Cameroun viennent de passer une nuit interminable de joie. Seuls les Lions Indomptables, à nouveau champions d'Afrique de football, pouvaient ainsi faire vibrer tout un pays à l'unisson. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'était le dernier journal de la CAN 2017. On se retrouve ce soir pour parler de cette CAN dans Sporama 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Maintenant, le reste de l'actualité, Anne.
À Bruxelles, une veillée funéraire en hommage à Étienne Tshisekedi a attiré plusieurs milliers de Congolais et d'autres amis de l'opposant historique décédé mercredi dernier. Des détails avec John Linden.
Hier, c'était la troisième et dernière journée de cette veillée. Le cercueil du défunt a été exposé pendant plusieurs heures dans une vaste salle mise à disposition de la famille Tshisekedi par la ville de Bruxelles. Les visiteurs ont fait la queue, patientant parfois pendant des heures avant de pouvoir s'incliner sur le cercueil surélevé. Dans la grande salle de la veillée, un orateur prend le micro. Il est mort, mais son esprit reste parmi nous. Nous perpétuerons son héritage, lance-t-il, avant de faire acclamer la veuve de Tshisekedi, présente aux côtés de son fils Félix. Pour Jean-Pierre Mokendi, originaire du Congo et prêtre dans une paroisse de Brabant Wallon depuis 17 ans, les Congolais perdent un fédérateur, un rassembleur. Étienne Tshisekedi s'est éteint mercredi dans une clinique de Bruxelles.
Le troisième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel se tient aujourd'hui à Bamako. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire au Mali et ses conséquences directes sur les pays voisins, la bande sahélo-saharienne et l'Afrique. De Bamako, Kassim Traoré.
Cette rencontre des chefs d'État est le troisième déjà, après celle de Nouakchott et de Gamina. Ce sommet de Bamako est apparu nécessaire, conformément à l'esprit des textes en vigueur au niveau du G5 Sahel. C'est pourquoi les chefs d'État ont envisagé la tenue de ce sommet extraordinaire du G5 Sahel au Mali, en vue d'examiner les voies et moyens utiles à une sortie durable de cette crise, pour assurer une paix et une sécurité, devant garantir le développement durable des États membres. Ainsi, les objectifs de ce sommet sont, entre autres, le renforcement de la paix, la sécurité, le développement dans les zones à faible densité humaine, le développement des infrastructures comme le transport, l'énergie, l'hydraulique et les télécommunications, l'effectivité de la présence de l'État et le renforcement de la décentralisation. En dehors des cérémonies protocolaires, les chefs d'État vont faire une séance de travail à huis clos. Il y aura ensuite l'examen et l'adoption du communiqué final qui sanctionneront les travaux de Bamako. En tout cas, plusieurs questions de sécurité, surtout la mise en commun de force sera au menu de cette rencontre. C'est pour cela que les responsables militaires des différents pays se sont rencontrés avant le huis clos des chefs d'État prévu ce lundi. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Quelques jours seulement après la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine, la question du Sahara occidental refait surface avec de nouvelles déclarations, voire des menaces, de la part des protagonistes. Les explications de Gaby Dorsil.
D'abord, Brahim Khalil, chef du mouvement indépendantiste sahraoui Polisario, a déclaré à l'AFP que toutes les options restaient ouvertes au Sahara occidental après l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Une référence à peine voilée à la possibilité d'un retour à une confrontation armée dans cet espace désertique où un cessez-le-feu est en vigueur depuis 1991. Le Polisario revendique l'indépendance, mais Rabat préfère un Sahara occidental autonome sous souveraineté marocaine. Et comme pour faire taire toute velléité du front indépendantiste après le retour du royaume chérifien dans l'UA, le ministre marocain délégué aux affaires étrangères, Nasser Bourita, a martelé hier dimanche que son pays ne reconnaîtra jamais la République arabe sahraoui démocratique. Le ministre a parlé de position immuable du Maroc, annonçant que son gouvernement tentera de faire changer d'avis la petite minorité de pays, ses propres termes, qui reconnaissent encore la RASD. Le Front Polisario souhaite néanmoins la reprise des négociations sur le Sahara occidental, a affirmé son chef Brahim Khalil.
Aux États-Unis, ici aux États-Unis, le bras de fer se poursuit aujourd'hui entre l'administration Trump et la justice américaine sur le décret migratoire. Pendant ce temps, des citoyens des pays à majorité musulmane visés par ce texte profitent de sa suspension pour se rendre aux États-Unis avant un éventuel nouveau revirement. Jean-Roger Bion.
La Cour d'appel fédérale de San Francisco a en effet rejeté dimanche l'appel formulé la veille au soir par le ministère américain de la Justice contre une décision prise par un juge de Seattle. Elle a aussi maintenu cette décision du magistrat James Robert. Il avait émis vendredi une injonction temporaire qui a effet sur l'ensemble du territoire américain, bloquant le décret présidentiel le temps qu'une plainte déposée il y a une semaine soit examinée. Infligeant un nouveau camouflet à Donald Trump, la justice a confirmé que les ressortissants de sept pays musulmans visés par le test controversé pouvaient continuer de rentrer aux États-Unis. Mais la brèche pourrait se refermer rapidement. N'arrive pas à croire qu'un juge mette notre pays en pareil péril. Si quelque chose arrive, tenez-le pour responsable ainsi que le système judiciaire. Les gens affluent, mauvais, a tweeté le président Trump. Dans le détail, la Cour d'appel a demandé aux États de Washington et du Minnesota, à l'origine de la plainte déposée lundi dernier contre le décret, de fournir des documents étayant leur demande avant 8h GMT lundi. Elle a également donné au ministère de la Justice jusqu'à lundi après-midi pour apporter de nouveaux arguments à l'appui de sa requête.
D'autre part, Donald Trump a exprimé de nouveau son respect pour Vladimir Poutine lors d'une interview télévisée pendant le Super Bowl, le championnat de football américain. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il va s'entendre avec son homologue russe. Cependant, estime-t-il, de meilleures relations avec la Russie pourraient aider dans la lutte contre le groupe État islamique et le terrorisme islamique dans le monde. Au journaliste qui lui disait que Poutine est un tueur, M. Trump a répondu: il y a beaucoup de tueurs, nous avons beaucoup de tueurs, ne pensez-vous pas? Notre pays, si innocent, s'est-il demandé. Ce qui a valu à M. Trump de nombreuses critiques, dont celle du leader de la majorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell, qui a dit qu'il n'y a aucune équivalence entre la manière dont les Russes se comportent et la manière dont les États-Unis se comportent.
Et puis le président Trump va rencontrer ses alliés de l'OTAN en mai en Europe, a annoncé dimanche la Maison-Blanche après un entretien téléphonique entre le président américain et le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour et nous commençons par la Minute Éco, Eric Manirakiza.
En Tanzanie, un consortium du groupe BTP turc Yapı Merkezi et le portugais Mota Engil va construire un chemin de fer de 400 km pour 1,1 milliard de dollars. Ce vaste projet à vocation régionale doit s'étaler sur 2200 km pour un coût total de 7,5 milliards de dollars. Il doit relier le port de Dar es Salaam au Burundi à la RDC, la Zambie, le Rwanda et l'Ouganda. Un autre projet ferroviaire au Nigeria, entre Lagos et Ibadan, devrait démarrer le mois prochain. Cette ligne est un projet phare du gouvernement. Le coût global s'élève à 1,5 milliard de dollars. 15% de ce budget sera débloqué par Abuja, tandis que le reste du financement est assuré par un prêt de la Chine à travers la China Exim Bank. L'Agence sud-africaine des statistiques affirme que les inégalités de revenus entre les Blancs et les Noirs restent énormes dans le pays arc-en-ciel. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid et l'arrivée de l'ANC aux commandes, les Noirs gagnent 5 fois moins que les Blancs, alors que la moyenne nationale est estimée à 10 281 dollars par famille et par an. Une famille noire réalise 6 914 dollars par an contre 33 108 dollars pour une famille blanche.
En Guinée, les travailleurs de l'administration publique sont appelés à observer une grève de 7 jours. Des 10 centrales syndicales demandent au gouvernement d'ouvrir des négociations autour de la nouvelle grille des salaires des fonctionnaires. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Au ministère de la fonction publique, on s'abstient de faire le commentaire. Les négociations sont en cours, dit-on. À quelques kilomètres de là, les organisateurs font le bilan. Parmi leurs constats, des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales non concernées par la grève. Une démarche qu'ils qualifient de complot. Boubacar Birobari, porte-parole.
C'est un système de cooptage que le gouvernement est en train de faire avec les autres centrales pour nous exclure de la sphère du dialogue social. C'est tout simplement une farce.
Autre grief formulé, les jours de congé que le gouvernement a accordés aux élèves et aux étudiants. Pour ces syndicalistes, il ne s'agit pas d'un hasard.
C'est une décision irresponsable, c'est une fuite en avant. C'est purement et simplement ça. Parce qu'ils ont compris que nous sommes rentrés de plein fouet dans le système éducatif. Et le mot d'ordre de grève a été fidèlement suivi. Donc ça les a fait peur, au lieu de trouver la solution pour décapiter le mouvement. C'est tout, c'est fait à dessein.
Unité d'action, c'est le nom de la plateforme regroupant une dizaine de centrales syndicales. Elle demande une correction de la nouvelle grille indiciaire. Mamadi Magasuba, secrétaire général de l'Union libre des travailleurs de Guinée.
À supposer que le fonctionnaire est noté, excellent. Il a 61 ans pour aboutir. S'il est noté bien, il a 77 ans. Alors que l'âge maximum d'un fonctionnaire qui a passé toute la carrière, c'est 65 ans. Donc jusqu'à la fin de sa carrière, même s'il a été un bon fonctionnaire, il ne serait jamais au plafond.
Après quelques heures de concertation, les organisateurs décident de poursuivre la grève.
L'unité d'action syndicale remercie et encourage l'ensemble des travailleurs de l'administration publique et communautaire. Et les exhorte à maintenir la mobilisation, la pression pour continuer la grève lundi, mardi, mercredi et jeudi 9 février 2017. Unis, nous vaincrons.
L'unité d'action se dit prête à faire des propositions au président Alpha Condé. Elle affirme détenir la solution au problème des salaires des fonctionnaires guinéens. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Au Togo, la subvention de l'État aux établissements scolaires du primaire et du préscolaire est insuffisante, estiment les acteurs du système éducatif. Ces derniers demandent donc une augmentation de ces allocations afin de rehausser, disent-ils, la qualité de l'éducation au Togo. Reportage à l'homme et de notre correspondante Kay Lawson.
Depuis la suppression des frais scolaires dans le primaire et le préscolaire il y a bientôt 10 ans, l'État togolais alloue 15 000 francs CFA par an et par classe aux écoles primaires publiques. Cette subvention est gérée par les directeurs de ces établissements scolaires. Ablavi Massan-Sosou, directrice du groupe C de l'école primaire publique Kélégougan dans la banlieue nord de Lomé.
Effectivement, l'État alloue 15 000 francs par classe et par année scolaire. Et avec cet argent, il faut des cahiers pour le roulement, des cahiers pour préparer les fiches, le matériel didactique, tout ce dont l'enseignant a besoin. Si une porte d'une classe est gâtée, c'est à vous de le réparer. Des cadenas, quand ça se gâte, l'enseignant s'adresse directement au directeur d'école. Les vieux tables bancs que nous avons depuis des années, c'est ça que nous gérons. À chaque année, il faut sortir les bancs cassés et il faut les réparer, payer le menuisier. À côté de ça, s'il y a un document qui manque, il faut lui faire des photocopies. Tout cela tout au long de l'année. L'État nous donne, mais c'est insuffisant, très insuffisant.
Quel impact cette subvention a sur le système éducatif togolais? Une étude a été menée pour répondre à cette question. Sena Yao Akakonumado, secrétaire technique permanent du plan sectoriel de l'éducation.
L'étude a compris qu'il y a eu des réussites. Les réussites en termes d'amélioration de l'accès, diminution des déperditions scolaires dans certaines localités, disponibilité du matériel didactique, etc. Et de l'autre côté, il y a des défis, notamment le montant de la subvention qui n'est pas toujours à la hauteur des besoins des écoles, et le transfert qui n'est pas fait à temps. Lorsque l'argent n'est pas là, l'école cherche l'argent par tous les moyens. Donc les écoles retombent dans l'exploitation des enfants sur les chantiers, dans les carrières. Les écoles tombent dans l'institution de cotisation parentale interdite par le gouvernement.
Les cotisations parallèles même étant interdites, les parents d'élèves les initient avec un objectif précis. Edo Misebukpo, président de l'Union des associations des parents d'élèves des écoles publiques du Togo.
Si nous croisons les bras en nous disant que l'État a déjà tout pris en charge, nous allons déchanter à la fin. C'est pourquoi nous continuons à mettre la main dans la poche. Nous continuons à investir pour l'ameublement des classes. Nous payons même dans certains établissements l'eau et l'électricité, et même le gardien.
Pour aller vers cette éducation de qualité, il faut non seulement augmenter la subvention, mais aussi prendre en compte l'équité dans la dotation des ressources. Nous retrouvons Sena Yao Akakonumado.
Il y a des zones où il y a des écoles défavorisées qui ont peut-être des paillotes à la place des salles de classe, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de clôture, donc question de sécurité. Alors, à ces écoles, il faut alors accorder d'autres subventions.
En 2008, l'État togolais a amorcé le processus de la gratuité de l'éducation en procédant à la suppression des frais scolaires au niveau du groupe primaire et du préscolaire. Depuis 2 ans déjà, il expérimente la cantine scolaire dans les 2 régions septentrionales du pays. Malgré ses efforts, les acteurs de l'éducation sont unanimes à reconnaître que la qualité de l'éducation au Togo est en constante baisse. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En République centrafricaine, fin des opérations de démantèlement du camp des déplacés de l'aéroport de Bangui. Lancé en décembre dernier, ce processus a permis à plus de 28 000 personnes de regagner leurs anciens quartiers ou de nouveaux lieux d'habitation de leur choix. Reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
L'opération Noël à la maison, lancée le 21 décembre 2016 par le président Faustin Archange Touadéra, semble être un succès. Aucune hutte n'est encore debout sur ce site, devenu aujourd'hui un grand terrain nu qui s'étend à perte de vue. Même Médecins Sans Frontières a fermé son hôpital installé pour des soins d'urgence. Emmanuel Lampayer, son chef de mission.
Nous avons fermé nos portes en lien avec l'opération de retour qui a été débutée par le gouvernement depuis maintenant plus d'un mois. De toute façon, nous gardons une large présence médicale à Bangui, notamment au niveau des maternités. Je peux citer la maternité du centre de santé urbain des Castors, dans le 3e arrondissement, la maternité MSF dans le quartier Bayandambia, dans le secteur du PK5. Nous sommes en train de finaliser la réhabilitation et la construction d'une maternité jadis existante de Waliti Emma dans le quartier d'Amekabouyeng. Et nous gardons bien sûr notre présence médicale au sein de l'hôpital général, au centre national hospitalier universitaire de Bangui, également à travers la nouvelle structure implantée dans le quartier Sika.
Les 8000 ménages ont été rasés par un bulldozer. Certains déplacés ont regagné leurs anciennes habitations. D'autres, par contre, se sont éparpillés dans la capitale. La ministre des Affaires sociales, Virginie Baïkoua, assure que les retournés seront assistés dans les quartiers.
Nous allons repartir dans les quartiers de retour. C'est à travers la fiche de suivi que nous avons mis en place avec mes chefs de secteur qui maîtrisent bien les quartiers. Nous allons repartir vers les gens avec les partenaires qui ont décidé aussi de nous accompagner dans les quartiers de retour pour tout ce qui est services sociaux de base ou encore pour les mesures d'accompagnement que nous avons identifiées et que nous allons encore compléter avec la fiche de suivi. C'est de venir vers la personne. Tu es installé là, tu vas bien, qu'est-ce qui te manque? Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez les moyens pour continuer après à payer? Vous voyez, c'est tout un travail à faire après.
Alors que la majorité a déjà quitté les lieux, un petit nombre visiblement mécontent décide de rester sous le hangar de l'aérogare. Pierre Ndoini explique que sa famille n'a pas encore touché la somme promise par le gouvernement. Donc, difficile pour elle de trouver une maison de location.
Ce qui ne marche pas, c'est qu'on nous a promis une petite somme pour pouvoir se réinstaller à l'extérieur de notre départ. Malheureusement, on n'a pas eu cet argent, c'est pourquoi nous sommes restés.
Et qu'est-ce qu'on vous a dit?
On nous a fait des promesses et cette promesse, on pense que ça peut être irréalisable.
Vous pensez que vous allez rester ici pendant combien de temps, puisque tous les autres sont partis?
Ça, on n'en sait rien dessus, exactement.
Et ça vous inquiète?
Effectivement, on est inquiet.
Une dizaine de ménages se trouvent dans la même situation que la famille de Pierre. Les responsables en charge de cette opération ne souhaitent pas pour le moment s'exprimer sur ce qu'ils considèrent comme des cas isolés. À l'exemple du site de l'aéroport Bangui-Poco, plusieurs autres camps de la capitale sont déjà fermés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burundi, les dernières pluies, le soleil brûlant et les maladies continuent de détruire les récoltes, ce qui a créé une insécurité alimentaire et des fins de mois difficiles pour les familles. Reportage sur place de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Sur la route en terre qui mène vers le centre administratif de la commune de Kavizi en province de Bujumbura, de petits champs de maïs, de haricots et de manioc s'étalent à longueur de vue. Si la plupart affichent une verdure normale, la majorité de ces plants n'ont pas de fruits. Pour certains, la grêle a causé des dégâts énormes, tandis que le trop de soleil a détruit des champs pour le malheur des habitants. Cette femme, la trentaine, est mère de 4 enfants, nous raconte le calvaire des agriculteurs de cette localité, jadis grande productrice de denrées de première nécessité.
Normalement, le prix des denrées alimentaires diminuait au moment des récoltes. Mais aujourd'hui, le prix au moment des récoltes n'a pas chuté, car il n'y a pas eu de production. C'est presque le même qu'au moment des semis. Comment va-t-on vivre, nous, les petites gens? Nous allons mourir, tout simplement. Seul Dieu est capable de nous sortir de cette situation, ou l'intervention des bienfaiteurs.
Le trop de pluie et de soleil de cette partie du Burundi ressemble à celui des autres communes du Burundi profond. La faim a déjà emporté quelques Burundais dans certaines localités. Selon les témoignages des autorités administratives, cette femme n'en peut plus.
Nous n'avons pas eu de production pour les haricots. Il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Et pour le haricot et le maïs, il n'y a rien. Nous demandons aux autorités de tout faire pour venir à notre secours. Nous n'avons pas d'argent, car on n'a pas de production pour vendre. Nos enfants ont faim. C'est un problème. Que les hautes autorités nous viennent urgemment en aide. C'est ce que nous demandons.
L'administrateur de la commune de Kabizi estime que les bienfaits devrait commencer à les soutenir, Renilde Ndaïchimier.
Nous avons transmis le rapport à nos supérieurs hiérarchiques. C'est à eux de prendre la décision. Il y a la diminution. Ce qui fait qu'on a besoin d'aide pour appuyer la population.
Qu'est-ce que vous demandez aux bienfaiteurs? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités burundaises?
Ce qu'on demande au gouvernement d'abord, c'est d'essayer de chercher comment on peut appuyer la population à ce qui concerne les semences de deuxième saison.
L'appel de toutes ces femmes a été entendu par le ministre des Relations extérieures, Alain Aimé Nyamitwe, quand il a rencontré les agences onusiennes où le Burundi a été placé en phase humanitaire. Le pays a besoin de 73,7 millions de dollars pour aider plus de 3 millions de paysans qui ont besoin d'aide urgente.
La détérioration de la situation socio-économique actuelle au Burundi peut être expliquée par deux causes principales. D'abord, peut s'expliquer par les catastrophes naturelles auxquelles s'ajoute le phénomène des Niño. D'autre part, par le fait qu'à la suite de la dégradation des rapports entre le gouvernement et certains de ses partenaires, il y a eu une réduction de l'aide directe, ainsi que l'épidémie de choléra.
Les représentants du ministère chargé de la solidarité affirment qu'une distribution de vivres sera ou est déjà faite dans les régions concernées. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.